Bienvenue sur Et on en parle. Ici, on parle santé mentale, maternité et sexualité. Devenue maman depuis 2022, j'ai à cœur de parler de la parentalité et de ses sujets trop peu abordés. Je partage mes récits pour raconter mon vécu de la maternité et de bien d'autres sujets. Je crée ces épisodes sur mon temps libre, alors pour me soutenir et briser les tabous à votre tour, n'hésitez pas à les partager, mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et vous abonner à mon podcast. Installez-vous maintenant confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Et on en parle. Et aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder un sujet dont on entend parler assez souvent, il faut dire, la séparation. Mais je ne vais pas vous parler de l'angoisse de séparation qui survient à 8-9 mois et à 18 mois, ni de chaque moment où on est séparé de l'enfant, ni du couple caché qui pourrait aider pendant cette période-là. Mais je vais plutôt vous parler d'un moment de séparation précis qui est la première séparation qui s'opère entre le bébé et ses parents, le moment où on décide de faire garder le bébé pour la première fois, que ce soit à la crèche, chez la nounou, chez les grands-parents ou tout autre type de mode de garde. Comme d'habitude, je m'appuie sur mon récit et ce que je voudrais avant tout expliquer et mettre en lumière, c'est que selon moi, il ne sert à rien de préparer bébé à la séparation. Pour ma part, j'ai décidé de reprendre le travail quand mon enfant aurait 6 mois. C'était un choix personnel et totalement en adéquation avec ma situation du moment et je ne le regrette absolument pas. Comme j'ai choisi d'allaiter mon fils et que les endormissements se faisaient principalement au sein, à l'approche de ces 5 mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis demandé comment il allait faire sans moi. Comment il allait faire sans le sein. Et comme j'avais entendu plusieurs fois que c'était une mauvaise habitude de l'endormir au sein, ça ne sortait pas vraiment de ma tête, mais pourtant je me le répétais en boucle. Je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et en plus, étant une personne assez têtue, j'avais envie de prouver au monde que non, ce n'était pas une mauvaise habitude, et que de toute façon, mon fils était tout à fait capable de s'endormir sans. Et puis j'ai cru nécessaire de devoir le préparer à ce nouveau mode de garde par une autre personne. J'ai cru qu'il fallait que je lui apprenne à s'endormir comme il le ferait avec une autre personne que moi. J'ai cru qu'il fallait que j'arrête tout ce que j'avais fait jusque-là pour l'endormissement. Et c'est comme ça que je me suis évertuée, épuisée et déchirée le cœur à l'endormir sans le sein. Oui, je pouvais y arriver, je l'avais déjà fait par le passé, parce que parfois il ne voulait pas du sein, même s'il était en crise, alors je trouvais d'autres techniques. Comme ça que pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, je l'ai endormi dans mes bras en chantant pendant de longues minutes qui, parfois heureusement, s'écourtaient. Je ne lui donnais plus le sein pour s'endormir. J'étais fière de moi, fière d'avoir réussi à l'endormir autrement. Et j'avais aussi besoin de pouvoir me dire que j'avais une autre option. J'avais ainsi plus de chances de pouvoir le reposer directement après dans son lit. Mais quand il se réveillait juste après l'avoir posé, l'échec était très difficile à accepter, surtout quand les minutes précédentes avaient été très longues. J'étais tellement focalisée sur cette idée de préparation que j'en avais oublié qu'il n'avait même pas 6 mois, que le mode de garde n'était pas prévu tout de suite, que dans un mois il aurait peut-être oublié tout ça et qu'on pourrait recommencer encore parce qu'il traverserait une nouvelle phase de développement. Mais surtout, j'avais oublié le plus important. Je ne serais pas là pendant les endormissements. Je ne serais pas là pour l'endormir. Ce ne serait pas avec moi qu'il resterait. Il sera avec une autre personne qu'il apprendra à connaître, qui a une autre voix, d'autres gestes, une autre odeur, d'autres manières de faire. Peu importe ce que j'aurais pu lui apprendre, même si en réalité il n'y a rien à apprendre. Tant que c'était avec moi, ça ne comptait pas pour le mode de garde qui allait se mettre en place. Il devait découvrir la manière de faire d'une autre personne. Et je devais apprendre à accepter que cette personne ne serait pas moi, et qu'elle serait forcément différente, et qu'elle ferait forcément d'une autre manière. Même si je lui donnais tout un tas de consignes, peut-être que ces consignes ne fonctionneraient pas, et dans tous les cas, il fallait que mon bébé et que cette personne puissent trouver une manière qui leur convenait à tous les deux. Et je n'avais pas à tenter de reproduire ce que cette personne aurait fait, ni à la convaincre de faire exactement comme moi, mais plutôt de trouver un compromis entre ce qui convenait à mon fils, à moi et à la personne en charge de la garde. Alors, épuisée par ces moments d'endormissement déchirants, et comme je voulais profiter de mes derniers instants full time avec mon bébé, j'ai tout lâché. J'ai finalement tout laissé tomber. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a tellement soulagée de pouvoir revenir au sein et arrêter de me prendre la tête à essayer de l'endormir autrement d'une manière que la personne reproduirait à l'identique, que tout se passe bien pour lui. Il fallait que je lâche tout ça, j'avais vraiment besoin de lâcher tout ça, et ça m'a fait du bien. Par contre, vous dire que tout s'est bien passé comme une lettre à la poste face à ce nouveau mode de garde, ce serait vous mentir. Mais que ma façon de l'endormir n'y aurait rien changé, absolument. Oui, il lui a fallu quelques temps pour établir un lien, apprendre à connaître ce nouveau lieu, cette nouvelle personne, ses nouveaux rituels, ses nouvelles odeurs, toute une manière de faire différente. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pleurs lors de l'endormissement lorsqu'il est gardé. Sans violence, sans force, sans cri, mais avec beaucoup de patience et de bonté. Alors voilà, je voulais simplement dire ici que pour moi, la séparation ne se prépare pas. Chaque enfant le vit à sa façon et l'exprimera différemment. Il n'y a pas de recette miracle, pas de baguette magique. Le temps d'adaptation peut varier et sembler parfois bien long. Il peut y avoir des moments plus difficiles quand tout semblait aller pour le mieux. On ne peut pas savoir ce qui se passe à chaque instant dans la tête de nos enfants. Mais profitez des moments que vous avez avec eux sans rien vous imposer pour être en adéquation avec ce mode de garde. On peut leur parler, les prévenir, essayer de les rassurer. Mais le travail d'adaptation se fait avec la personne et dans le lieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire à votre échelle, à part le prévenir en amont qu'il va y avoir ce changement. Et puis un beau jour, vous irez le récupérer avec le sourire. Vous saurez que c'était la bonne décision. Comme on m'a dit à juste titre, quand on quitte son conjoint pour quelques jours de séparation, on ne fait pas chambre à part la semaine avant pour le préparer. Bien au contraire, on a souvent tendance à passer beaucoup de temps ensemble avant pour remplir sa jauge à fond. Eh bien, la même règle s'applique avec les enfants. Alors rechargez votre jauge à fond pour les laisser s'envoler.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenu. À bientôt pour un nouveau sujet.